Bonjour, c'est Nicolas Descamps. Il est 13h, nous sommes mercredi, et il est l'heure de découvrir avec vous et Corinne l'histoire secrète d'une de vos chansons Disney favorites. Et dans cet épisode, une chanson romantique qui a du chien, bienvenue dans Ne me remercie pas, consacré à Belle Nuit.
Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yernaud sur DLRP.
Bonjour Corinne, d'épisode en épisode, on se rend compte combien la musique chez Disney est indissociable des histoires, et voilà des dizaines de chansons qui, depuis, sont devenues cultes et que l'on fredonne de génération en génération. Mais certaines scènes sont également devenues des images ancrées dans la tête des petits et des grands, la scène du restaurant dans La Belle et le Clochard par exemple.
Bonjour Nicolas, et bien voilà une scène et une chanson dont Walt lui-même a bien failli nous priver.
Impossible, c'est le moment le plus romantique du film, explique-nous ça.
On se calme et on reprend depuis le début. À ton avis, de quand date l'idée de cette histoire d'amour entre chiens ?
La Belle et le Clochard, je dirais le début des années 50.
1937. Joe Grant, qui a créé la méchante reine dans le cultissime Blanche-Neige et les Sept Nains, est un tout jeune papa. Il apporte un jour les croquis qu'il a fait de sa jeune cocker, Lady, face à l'arrivée du bébé. Walt trouve les dessins amusants et lui demande de développer une histoire qui pourrait devenir l'un des prochains films d'animation.
Et il a fallu tant de temps pour trouver cette histoire ?
Plusieurs artistes y travaillent et apportent des idées les plus variées. Mais le papa de Mickey n'est jamais satisfait. Il trouve ses histoires trop mièvres, sans intérêt, et est peu convaincu par le caractère minaudeur et charmeur que l'on donne à Belle. Bref, le projet patauge. Et si on ajoute à cela les contraintes financières dans le contexte de la guerre, on comprend que les studios limitent leur production.
Donc du coup, on oublie l'idée alors ?
Walt ne l'a jamais mise tout à fait de côté. La preuve en est lorsqu'en 1943, il achète les droits d'adaptation de la nouvelle de Ward Green, Happy Dan the Whistling Dog, qu'il a découverte. Une fusion entre les idées de Grant et la nouvelle de Green est l'idée pour rendre l'histoire plus attachante. Lady tombe amoureuse d'un chien un peu effronté et la voilà moins lisse. C'est comme cela que Tramp fait son entrée dans le scénario.
Bon, puisque tous les éléments sont là, le projet peut réellement démarrer.
À l'époque, les studios travaillent sur plusieurs projets en même temps. Il faudra attendre le succès de Cendrillon en 1950 pour que Disney se lance à nouveau dans l'aventure du long métrage. Mais entre-temps, un différend avec Walt pousse Grant à quitter Disney. Une brouille suffisamment grave pour que le papa de Mickey supprime toute référence au scénariste, au générique, mais aussi en modifiant l'arrivée du chiot dans la famille Darling.
Oui, tu parles de la scène où Jim offre une boîte de chapeaux à Darling dans laquelle se trouve Belle.
Eh bien, cette scène nous vient directement de Walt. Il avait oublié un dîner qu'il devait faire avec sa femme et pour se faire pardonner, il lui avait offert un chiot dans une boîte à chapeaux. Mais reprenons le fil de l'histoire. Grant est parti en 1949, mais les scénaristes de Disney reviennent régulièrement vers son histoire pour la retravailler. Et c'est en 1953 que la véritable histoire prend forme.
Ah, on va enfin en arriver à la scène des spaghettis.
Tu veux parler de ce dîner au cours duquel Belle et Clochard partagent un premier baiser ?
Bonne nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle Bella Notte.
Ah, il est vrai que, même si on n'a jamais vu le film, tout le monde connaît cette tendre scène. Un grand moment de romance au cinéma, dont Walt voulait pourtant nous priver.
Mais comment celui qui s'est si souvent montré visionnaire pouvait-il désapprouver cette séquence, la plus emblématique du film ?
Lorsque les animateurs proposent une scène de repas romantique entre les deux chiens, Walt, qui pourtant avait été à la base de l'idée de les dépeindre à travers des sentiments humains, ne pouvait pas envisager que ce moment puisse être gracieux. Penses-tu ? Des chiens qui mangent dans une gamelle, ça ne pouvait être qu'idiot.
Et pourtant, elle est bien présente, cette scène.
Grâce à la désobéissance, Frank Thomas, qui est l'un des plus grands animateurs des studios, va quand même intégrer cette animation contre l'avis de son patron. Le pari était osé, mais Thomas avait l'intention de démontrer que ce serait à la fois tendre et amusant.
Et sur le coup, il a bien fait.
C'est ce qu'a dû penser Walt. Lorsqu'on lui a présenté la scène, il sera impressionné et ne pourra que féliciter Thomas pour le souffle romantique qu'il a pu apporter. Feu vert pour l'intégration de la scène au film. Et Walt, lui, en a tiré une leçon. Celle que dans un travail de collaboration comme l'est l'animation, il fallait faire confiance les uns aux autres pour rendre possible l'impossible.
Et que dire lorsque la musique vient compléter le tableau romantique ? Une musique de qui d'ailleurs ?
Les auteurs et compositeurs de la plupart des chansons de La Belle et le Clochard sont Sonny Burke et Peggy Lee, qui d'ailleurs interprètent plusieurs rôles dans l'animation.
Actrice et auteur de chansons, explique-moi ce mystère.
Peggy Lee a de multiples talents.
Never know how much I love you. Never know how much I care.
Par exemple, difficile de se douter en entendant Darling ou Peg, la petite chienne de la fourrière, qu'il s'agit de la célèbre interprète de Fever. Elle est effectivement une artiste aux multiples talents, douée pour la musique populaire, le jazz ou encore le cinéma.
Et comment en était-elle arrivée à écrire pour un film d'animation ?
C'est Sonny Burke à qui on a proposé l'écriture des chansons pour Lady and the Tramp qui approche Peggy en 1952. Elle ne pouvait refuser cette demande à un ami. D'abord engagée comme compositrice, Walt lui demandera ensuite d'interpréter plusieurs personnages. Darling, Peg, la chienne des rues, et Si et Am, les deux chats siamois.
We are Siamese, if you please. We are Siamese, if you don't please.
C'est assez comique que la petite chienne de la fourrière s'appelle Peg.
Et ce n'est pas un hasard. À l'origine, elle s'appelait Mamie, ce qui n'était pas très heureux. Walt décide alors de changer et propose Peg, qui a la démarche sexy de la chanteuse.
Auteur, compositeur, actrice, et elle influence le film lui-même.
Au point même qu'elle a sauvé un personnage. Le vieux César devait mourir dans le scénario original. Peggy a tellement supplié pour qu'il reste en vie que Walt a cédé.
Et la fameuse Belle Annotée alors ?
Ah, elle reste mythique. Au point de donner son nom à l'un des restaurants de Disneyland. Il faut dire qu'elle est le sommet du romantisme. Tony et Joe traduisent exactement ce moment sentimental qu'est l'idylle naissante, émotion garantie.
Bref, une chanson qui nous rappelle que l'amour triomphe de tout, même d'une scène qui devait être supprimée. Merci Corinne pour ce moment de douceur et à bientôt pour une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne.
À bientôt Nicolas.
Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.